poursuivons notre culte par la lecture de la parole de Dieu que nous allons découvrir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, les versets 13 à 15. Matthieu 19, 13 à 15. Jésus bénit les petits-enfants. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Et Jésus dit, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les en empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole et son influence dans notre vie. Amen.
Voilà un passage d'actualité ce matin, car nous aurons dans un instant... Je vois la maman là-bas, je ne vois pas encore le papa, il est là. Une présentation d'enfants qu'il fallait articuler avec le temps de scène qui nous réunit aussi ce matin, et l'articulation parfaite, me semble-t-il en tout cas, se trouvait dans ce texte. C'est un texte sur lequel j'aimerais m'arrêter, et tout particulièrement deux verbes de ce texte. Laisser venir. En fait, il ne s'agit que d'un verbe, mais je choisis volontairement de séparer les deux mots qui le constituent. Il me semble qu'il y a là, lorsque nous portons le regard de façon précise, l'indication de deux articulations majeures du salut. Et c'est cette double articulation qui, à travers ces deux verbes, nous intéressera ce matin. Jésus veut ainsi nous donner la possibilité de comprendre comment s'articule, aussi bien que le micro en ce moment en face de moi, le salut dans notre vie. Comment s'inscrit la parole, je l'espère, bien maintenant dans vos oreilles, de Dieu dans notre existence. Laissez venir. Pourquoi Jésus veut-il porter l'emphase sur cette double orientation? Parce qu'il y a dans la démarche qui est proposée par les parents, qui est refusée par les disciples, un risque. Le risque du magique, du merveilleux. Le risque d'une compréhension de la présentation d'enfant, de la bénédiction que nous imaginons lorsque nous présentons l'enfant. Celui d'attacher cette pratique à une perception et une erreur magique. Jésus a probablement cette idée en tête lorsqu'il voit ses enfants venir, lorsqu'il voit et regrette les disciples les en empêcher, lorsqu'il voit aussi ce troisième acteur dans ce texte très discret, les parents qui, mesurant l'importance du moment, apportent avec toute la force de leur volonté les enfants vers le Christ, qu'ils reconnaissent probablement comme prophète, qui sait, peut-être comme Messie. L'antidote que Jésus va proposer à cette conception entre guillemets magique, qu'est-ce à dire? S'imaginer que lorsque nous allons présenter les deux enfants que nous présenterons dans un moment, il y aura une sorte de halo merveilleux qui tout au long de leur existence va les accompagner, et qui aurait pour les cas les meilleurs la propriété, les vertus de les protéger de tout mal. Vous comprenez toute la déception, toutes les interrogations quand le bal s'abat quand même, cette mauvaise compréhension sur l'enfant. Jésus a probablement cette difficulté aussi, il nous propose une double pédagogie. Une pédagogie du verbe, mais aussi une pédagogie concrète. Vous savez que Jésus n'a jamais séparé l'action de ses paroles. Eh bien, c'est ce qu'il va faire aussi. Il va parler et il va utiliser un exemple concret, un exemple pratique, un exemple vivant, les enfants. Laissez. Lorsque l'on lance ce mot, il me semble que nous devons systématiquement le faire suivre d'une vertu, d'un principe.
celui de la liberté. Laissez venir, laissez aller, laissez faire. Lorsqu'on utilise ce mot, vous remarquerez qu'il est toujours accompagné d'un autre mot qui indique un mouvement, une action. C'est dire si la liberté inhérente à ce vocable est active. Elle est capable, lorsque nous la possédons, lorsque nous la pratiquons, d'amener celui qui vit ainsi vers de l'action, vers de la création. Jésus veut nous dire ici que le salut est d'abord liberté. Et quand je parle de salut, je ne parle pas uniquement de l'acte légal qui veut que en Jésus-Christ nous avons la vie, qui veut que lorsque nous acceptons par la foi ce personnage, deux actes prodigieux, la croix et la résurrection, nous sommes sauvés. Non, lorsque je parle de salut, je parle de l'extension à cette déclaration. Je parle de l'application dans nos vies. Jésus nous dit que si nous voulons vivre un salut accompli, si nous voulons expérimenter la grâce, il faut que nous puissions expérimenter d'abord cette liberté véhiculée par le verbe laisser. Et c'est là que les enfants interviennent. C'est là que les enfants ont leur rôle dans ce texte. Je suis sûr que vous vous êtes déjà trouvé dans ces situations où vos enfants, alors que vous êtes invités chez des amis, vont d'un coup aller sur le canapé ou aller toucher je ne sais trop quel objet, au risque de le faire tomber, des fois le tomber et le casser. L'enfant est libre, libre d'agir, libre de parler. Je me souviens de ce cousin qui, arrivant à la maison, la première chose qu'il nous dit, c'est le détail de la dispute de ses parents dans la voiture. 5-6 ans, ça retient les enfants. Libre de penser aussi. Je vais parler d'elle parce qu'elle n'est pas là, de ma fille. Voilà qu'il y a quelques jours de cela, elle nous dit, au moment du petit déjeuner, pourquoi Mélina ne croit pas aux anges ? Mélina, c'est la voisine. Ce qui veut dire que Émilie, ma fille, qui a 5 ans, avait cette idée d'incroyance, lotie, logée dans son esprit, l'amenant le matin, alors que la journée commence, à poser cette question qui n'était pas franchement une question franche, qui était plus penser tout haut. L'enfant pense et il pense à Dieu, je crois, peut-être plus que nous. Il est libre au niveau de sa pensée, et comme il est libre au niveau de sa pensée, il est libre de témoigner, vous le remarquerez. Car si Mélina, la copine de ma fille, lui a dit qu'elle ne croyait pas aux anges, c'est parce que ma fille lui en avait parlé. Voilà trois orientations du salut qui nous sont proposées par les enfants, me semble-t-il, lorsqu'on sait les observer. Trois orientations qui, par ce témoignage d'enfant, viennent souligner la liberté contenue dans le verbe laisser. Nous aussi, nous devons être libres. Libres de parler. De parler pour défendre. De parler pour témoigner. Nous devons être libres de penser. De penser notre foi pour pouvoir la dire, comprenons de la réfléchir, de communier avec elle, de communier avec le texte biblique, d'essayer de le confronter lui aussi dans les problématiques intellectuelles, théologiques qu'il nous lance, nous le pose lorsque nous confrontons notre regard, notre logique à la sienne. Et puis vient le deuxième verbe, venez. Vous remarquerez que trop de liberté tue la liberté. C'est un principe toujours vrai. avec les enfants, nous verrons dans un instant. Aussi, Christ dit « laissez venir ». Si nous devons associer toujours à laisser la liberté, nous devons associer toujours à venir, venez, deux points importants. L'orientation et la régulation. Toute la semaine dernière, j'étais en Allemagne, à Wittenberg. Se déroulait là-bas le forum des planteurs d'églises. Planteurs d'églises, c'est créateur de ces nouveaux types d'églises qui apparaissent en Europe depuis quelques décennies maintenant, dans le sud de la France, dans la Fédération Sud de la France, depuis 2-3 ans, et nous l'espérons en Fédération Nord aussi. Il existe en tout cas aujourd'hui dans l'église d'Orléans un projet que nous pouvons ranger dans cette catégorie. Je suis donc allé à Wittenberg, double joie à la fois pour ce forum, mais aussi pour ceux qui connaissent la ville de Luther. J'ai visité l'église sur la porte de laquelle il a apposé les 95 thèses. J'ai pu voir la maison dans laquelle il avait habité aussi. C'était très intéressant. Mais pourquoi vous parle-je maintenant de Wittenberg et de mon voyage en Allemagne? Parce que pour me rendre en Allemagne, j'étais dans un véhicule qui n'avait pas de GPS. Et aujourd'hui, quand on est dans un véhicule qui n'a pas de GPS, alors qu'on s'est habitué à véhiculer, à voyager avec un GPS, on est bien embêté. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bien, la veille, j'ai sorti sur Mappy, vous savez ce que c'est que Mappy, hein, excusez-moi pour la pub au passage, mon itinéraire. Et m'apercevant que cet itinéraire était en partie en allemand, du moins que certaines villes étaient écrites en allemand, j'ai voulu anticiper un peu ce voyage, cet itinéraire. Aussi, je me le suis mis, entre guillemets, dans la tête. Je l'ai mémorisé. Et puis, lorsque j'ai pris le volant, lorsque je suis arrivé en Belgique d'abord et en Allemagne ensuite, là, j'ai vu que les panneaux autoroutiers étaient sensiblement les mêmes que ceux que nous avons en France et que je connais bien pour des raisons que je n'expliquerai pas maintenant, que certains devinent. Grâce à cette orientation, grâce à cette régulation, j'ai pu appliquer une liberté importante pour moi la semaine dernière, celle d'aller en Allemagne. Je crois qu'ici, c'est un peu la même logique. J'en reviens à nos enfants. Lorsque nous les laissons aller chez l'invité qui nous a gentiment accueillis, un peu trop sur le canapé, un peu trop crier, ils finissent par devenir insupportables et nous en avons assez. Si donc ils ne restent que dans la liberté, ils finissent par ne plus être ces enfants que nous aimons regarder, avec qui nous aimons être. Il nous faut toujours faire suivre notre liberté d'une orientation et d'une régulation. Les deux vont de pair. Nous avons, je le crois, beaucoup d'exemples bibliques qui vont dans ce sens-là. Regardez. Lorsque les Israélites ont voulu aller au Sinaï à travers Moïse, pour récupérer la loi. C'est d'ailleurs Dieu qui les avait convoqués, c'est Dieu qui demande à Moïse d'aller sur le mont Sinaï récupérer la loi. Il y a une orientation, le sommet de la montagne, et il y a une régulation. On place autour de la montagne notamment une barrière qui sera infranchissable, que les Israélites, du moins la grande majorité du peuple, ne pourra pas traverser. Seul Moïse, seuls les prêtres. Lorsque nous étudions l'Ancien Testament notamment, mais aussi le Nouveau Testament, nous nous apercevons qu'il y a toujours après la proclamation d'une parole de salut, après la proclamation d'une parole de grâce, c'est-à-dire de liberté, une règle. une régulation. Les deux vont de pair. Et c'est l'enseignement que Jésus veut nous donner aussi en termes de salut dans ce texte, à travers le vocable « venir ». On ne vient pas vers Jésus comme on va au marché. On se prépare. Et quand on se prépare, on entend particulièrement comprendre la volonté de celui vers qui l'on veut aller parce qu'il nous a appelés. Et sa volonté s'articule par un ensemble de prescriptions. Pour ce qui concerne la catégorie morale de ces prescriptions, nous les connaissons bien, les 10 commandements. Eh bien, nous les respectons. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus dans ce lieu, parce que le 4e de ces commandements nous dit que le jour du sabbat, le samedi de nos semaines, nous devons adorer ensemble en Église ce Dieu créateur. La grâce, c'est vivre libre. Libre de respecter la volonté du Père, la volonté de Dieu. Et je crois qu'avec ces enfants et avec ce verbe particulièrement, c'est aussi ce que le Christ veut nous dire. Deux mots, deux verbes, laisser, venir. Pour que ce matin nous puissions ajouter à la pratique de notre salut cette liberté, cette orientation, cette régulation, pour que nous puissions ainsi vivre mieux, vivre plus. Ce salut qui nous a été donné et que nous pratiquons à mesure de journée. Voilà comment Jésus a non seulement donné à son peuple de cette époque et d'aujourd'hui encore un message relatif au salut et éviter à bien des parents de tomber dans le piège d'une perception magique de la bénédiction qu'il entend bien donner à tous ses enfants et à tous ses petits. Voilà pourquoi maintenant j'inviterai Alison, Johan, Amy, Emeline à bien vouloir me rejoindre. Je vais peut-être aussi demander le concours de deux diacres pour vouloir bouger, s'il vous plaît, cette chaire et la mettre un petit peu par ici, de façon à ce que l'Assemblée puisse profiter visuellement de ce moment. On va s'agenouiller. J'invite l'Assemblée à bien vouloir se lever. Avant que nous puissions prier et demander à Dieu de bénir cet enfant, quelques mots pour expliquer ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons simplement demander à Dieu de donner aux parents, tout d'abord, à l'Église qui est ici, mais aussi à toute personne qui pourrait intervenir dans ce sens, le désir, la volonté et la possibilité d'éduquer ses enfants dans le sens de la foi. Car si Dieu veut et peut bénir, et c'est là sa volonté, il ne le peut qu'à la condition que les partenaires que vous êtes, Johan et Alison, les partenaires que nous sommes, nous l'Église, puissions aller dans ce sens éducatif, utilisant les ou la bonne pédagogie pour qu'ils puissent, dès maintenant, et ce tout au long de leur vie, par nous, être orientés vers Dieu, qui de ce fait pourra les bénir, car la bénédiction est toujours le fruit d'une relation entre l'homme et son Dieu, entre l'enfant et son Dieu. Ainsi compris, nous pouvons prier. Seigneur, nous voulons en cet instant te présenter ces deux enfants. Emma, Méline, nous voulons te demander de les bénir, de les protéger, de les garder de tout mal, de pouvoir les accompagner dès maintenant et à jamais. Nous voulons, notre Dieu, que tout ceci tu puisses le réaliser à la condition que Johan, qu'Alison, leurs parents, que l'ensemble de la famille, que l'ensemble de la famille, qu'est l'Église également, puisse réunir tous ses moyens, mobiliser tous ses dons, afin que ses enfants puissent sans cesse, en permanence, être orientés vers toi, à travers l'éducation et à travers tous les autres outils que tu sauras placer à notre disposition. Qu'ainsi ta sainte influence puisse reposer, inspirer ces deux enfants dès maintenant et à jamais. C'est en Jésus que nous prions. Amen.